Bien, alors, nous allons commencer par la prière et puis aujourd'hui continuer dans notre étude dans 1 Timothée chapitre 3. Je vais reprendre à partir du verset 16 pour clore, si vous voulez, notre étude qu'on avait commencé dans le chapitre 3 et puis continuer dans le chapitre 4 et jusqu'au verset 5 aujourd'hui. Donc, prions. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion de nous rassembler encore aujourd'hui pour étudier ta parole. Merci pour ces frères qui nous joignent, en qui tu as mis cet intérêt de connaître davantage ton Fils. Quand on dit l'Évangile, il s'agit de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous ton esprit de connaître ton Fils et aussi le pouvoir de l'annoncer aux hommes, aux auditeurs qui se rassemblent, que toi-même tu rassembles pour venir écouter ce message. Nous savons que ce n'est pas un message populaire, mais c'est ton message, c'est le message qui annonce la gloire de ton Fils. Et pour cela, nous demandons, Seigneur, que tu nous diriges et que, comme ta parole le dit, tu fais de lui, pour nous, la sagesse et la justice, la sanctification, la rédemption. Alors, nous te prions de bénir ces moments ensemble, dans ta parole, à ta gloire, et pour cela, nous te remercions de tout cœur. Et c'est dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Amen.
Amen. Alors, commençons dans 1 Timothée 3 et le verset 16, et je vais continuer à lire jusqu'au verset 5 du chapitre 4. Et nous savons que ces divisions de chapitres sont placées là par des éditeurs. Dans l'original, c'était un rouleau sur lequel, des parchements sur lesquels étaient écrits ces paroles inspirées. Il n'y avait pas de division de chapitre. Avec, à travers le temps, des hommes ont trouvé bon de mettre des chapitres et des versets, surtout pour aider dans la lecture publique de la Bible, parce que c'est plus facile lorsqu'on se tient devant l'Assemblée pour dire à l'Assemblée, regardez 1 Timothée 3, 16, au lieu de dire, bon, je vais commencer la lecture dans 1 Timothée, quelque part au milieu de cette épître, vous allez trouver ces paroles. Alors, c'est pour nous aider, mais parfois, les divisions des chapitres sont mal placées. Et je dirais, c'est le cas ici, parce que quand on lit 1 Timothée 3, 16, ça commence avec « et puis, chapitre 4 et le verset 1, nous lisons « mais ». Alors, c'est une continuation du même point que l'apôtre Paul, encore sous la direction de l'Esprit, écrivait ses paroles à Timothée. Alors, on doit faire attention parfois, en prêchant, de ne pas couper la pensée au milieu quand il y a une continuation. Alors, c'est pourquoi je voudrais lire, commençant par 1 Timothée 3 et le verset 16 et continuer jusqu'au verset 5 et parler de ce mystère de la piété qui est l'Évangile et le contraste avec ce que les hommes prêchent. On a déjà vu, quand la Bible parle de l'Évangile, c'est au singulier, c'est exclusif, c'est la doctrine de Christ. Vous n'allez jamais trouver les doctrines de Christ au pluriel, ou comme même certains aiment utiliser le terme les doctrines de la grâce. Il n'y a pas des doctrines de la grâce. C'est la doctrine de la grâce, et en fait, allez tout court, c'est la doctrine de Christ en qui réside toute la grâce de Dieu. Si Christ lui-même, c'est lui qui est le dispensateur de cette grâce, c'est pas nous. Alors, où il daigne sauver le pécheur est sauvé, mais où il daigne condamner, le pécheur est condamné, c'est lui qui est le juge. Et je dirais que c'est ça le point qui cause l'opposition, la rébellion de sortir dans le cœur de l'homme, parce que l'homme veut être maître. C'est pourquoi l'évangile d'homme est populaire, parce que ça met le salut entre mains de l'homme. Ça lui dit que Dieu a fait tout ce qu'il peut, maintenant le reste dépend de vous. Et les hommes aiment avoir dans leur pensée ce pouvoir, mais c'est un mensonge. Et c'est là que nous allons voir aujourd'hui. Il y a plusieurs manières de faire le contraste entre l'évangile et de Dieu et ce que croient les hommes. L'évangile de Dieu est décrit comme la lumière et les doctrines de l'homme sont décrites comme les ténèbres. La lumière, les ténèbres, voilà le contraste. Ici, c'est la vérité contre le mensonge. C'est l'esprit du Christ, d'un côté, contre les esprits séducteurs, pluriels. Alors, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de pont au milieu où on peut compromettre, on peut dire, mais quand même, essayons de nous unir autour d'un compromis. Non, il n'y a pas de compromis. Soit c'est la vérité ou c'est le mensonge. Soit Dieu est souverain ou il n'est pas. Soit que Christ, quand il est mort, il a effectivement sauvé chacun pour qui il est mort, ou le salut n'est pas dans sa mort. Il n'y a pas de salut. Ça dépend de l'homme. Mais nous avons, par la grâce de Dieu, la vérité. Le salut est entre les mains de Dieu, le Christ. Alors, c'est pourquoi, dans 1 Timothée 3, le verset 16, ça commence avec cette parole. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà encore une comparaison, ou bien des contrastes qu'on peut tirer entre l'évangile de Christ, la doctrine de Christ, et les doctrines d'homme. C'est que la doctrine de Christ libère le pécheur. Quand Christ est révélé au cœur, il y a une libération du cœur, libéré de toutes les traditions et des coutumes, des exigences que la religion impose. Par contre, nous voyons, comme on peut supposer par la description de l'évangile de l'homme, ça dépend de l'homme, c'est un évangile d'œuvre, ça dépend des œuvres, et tout ce que Paul est en train d'écrire à Timothée ici, c'est contre ces traditions, où les gens se donnent à des prescriptions d'hommes, et ils imaginent que par leur action, par les œuvres de leurs mains, ils sont en train de se recommander à Dieu. Mais tel n'est pas le cas. C'est un aveuglement. Paul utilise une expression vraiment dure quand il appelle tout cela des doctrines de démons. Si on posait cette question à ceux qui sont autour de nous, même qui s'en vont dans leur lieu de culte avec la Bible en main, et qui supposent qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais ils s'approchent de Dieu par les œuvres de leurs mains, et on leur disait qu'en fait, ils ne sont pas mieux que les fétichistes, les animistes, qui adorent des esprits démoniaques. Ils seraient étonnés. Ils vont s'opposer et dire non, il y a une différence. Mais Paul ne fait pas de différence. Si nous ne suivons pas la doctrine de Christ, si cette révélation de Christ, telle que c'est déclarée dans 1 Timothée 3 et le verset 16, parce que ça c'est la somme de l'évangile, si telle n'est pas notre doctrine, donc c'est que nous sommes toujours sous l'influence de Satan et nous suivons des esprits séducteurs. Et c'est au pluriel, parce que quand on en parle des esprits séducteurs, il ne faut pas imaginer seulement des démons, les esprits démoniaques. Il faut dire qu'il y a un esprit démoniaque dans le cœur de chaque homme et femme né dans ce monde qui est encore inconverti. Ils sont toujours sous cet esprit aveugle, cet esprit antichrist, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu lui-même agit pour emmener un tel à Christ dans la conversion, dans le salut. Alors, je crois que c'est clair. La simple lecture de cette parole nous avertit de faire la différence. Et c'est le monde même qui a besoin d'écouter un message comme ça qui est clair et qui ne dévie pas de ce qui est écrit ici dans les Écritures. Alors faisons ce contraste aujourd'hui à partir de 1 Timothée 3 et le verset 16. Je sais que nous avons déjà touché à cela la dernière fois, mais je voudrais résumer l'enseignement que nous voyons ça dans 1 Timothée 3, 16 au sujet de l'Évangile et ce que c'est, et puis ensuite continuer pour faire le contraste. Et je crois que par la grâce de Dieu, cela peut nous aider à voir la différence aussi dans les multiples messages qui sont prêchés dans le monde, mais en fait, on peut les classifier dans une de deux catégories. Soit c'est la grâce, ou bien c'est les œuvres. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Soit c'est la vérité, ou bien c'est le mensonge. Alors, quelle est la somme de l'évangile que nous voyons dans 1 Timothée 3 et le verset 16? D'abord, nous avons ce mot « sans contredit ». Nous savons que les hommes aiment contredire le message de l'évangile. Mais ce mot, dans l'original, signifie simplement... Alors, c'est écrit ici « sans contredit », mais nous savons que les hommes contredisent. Et ici, c'est le seul endroit, le seul verset dans toute la Bible où ce mot est utilisé de cette façon. Alors, lorsque Paul dit à Timothée sans contredit, cela ne veut pas dire que les hommes ne vont pas contredire. Parce que c'est dans la nature de l'homme de contester la vérité. Parce que l'homme est né dans ce monde avec un cœur dépravé. Les hommes contredisent, mais ce que Paul veut dire en écrivant cela à Timothée, c'est qu'ils n'ont pas raison de contredire. Même si les hommes contredisent, nous avons dans l'Évangile cette parole fidèle qui est digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde sauver des pécheurs, comme Paul le disait, dont je suis le premier, je prends la première place. Alors, si les hommes veulent discuter, s'ils veulent contredire, que ça soit alors avec Dieu lui-même. Il faut qu'ils comprennent que aller contre ce qui est écrit ici dans les Écritures, c'est de contredire Dieu. C'est comme si quelqu'un veut se défendre devant le juge, quoique coupable. Mais plus il ouvre sa bouche, plus il se condamne, parce qu'il est devant le juge. Alors, c'est ce que j'ai constaté aujourd'hui, qu'il y a dans le cœur rebelle des hommes une attitude comme s'ils sont égaux avec Dieu. Ils se mettent à la place de Dieu pour débattre et contester ce qui est écrit. Et tant que quelqu'un a cet esprit, c'est un esprit antéchrist, parce que sans contredire, cela veut dire ce qui est écrit ici doit nous fermer la bouche face à la vérité. Et pour moi, si je veux savoir si quelqu'un est l'objet de l'œuvre de l'esprit dans son cœur, je dois dire que sa bouche est fermée. C'est comme Job disait quand ses amis sont venus à côté de lui pour essayer de le pousser à confesser ceci ou cela, pour dire qu'il a fait ceci ou cela, comme s'il devait se défendre devant Dieu. Mais il disait, si j'ouvre ma bouche, même mes lèvres, mes paroles vont me condamner. Donc, je reste dans le silence. Et je crois que ça, c'est l'évidence d'un cœur qui est vraiment converti par la grâce de Dieu. Ce n'est pas en se défendant, comme les hommes le font, ils défendent leur décision, ils défendent leur profession, leurs œuvres, etc. Leurs lèvres sont toujours en train de bouger, parler. Mais, par contraste, dans la Bible, où l'esprit œuvre, il y a la soumission à la parole de Dieu. Il y a plutôt le silence. Il y a une soumission entière à ce qui est écrit, sans contradiction. Vous savez que nous pouvons lire cette parole du début jusqu'à la fin. Et si l'Esprit de Christ est en nous, on lit. Et là où cette parole nous condamne, nos actes, on reçoit cela. On n'essaie pas de poser des arguments contre ce qui est écrit. On reconnaît que nous sommes pécheurs. Et là où ça nous dit que le salut est entièrement en Christ, là aussi nous soumettons à lui. Parce que nous savons que ça ne peut pas être autrement. Parce que ce qui est écrit est écrit. Alors, c'est un mot qui est très important. Et nous devons, par la grâce de Dieu, prêcher de cette manière que si des hommes ont un problème, ce problème, c'est avec Dieu, parce que c'est avec sa parole. Nous ne voulons pas que les hommes discutent avec nous au sujet de cette doctrine de la grâce, mais leur lutte, si vous voulez, leur guerre, en réalité, c'est contre Dieu lui-même. Mais quand il s'agit de cet évangile, vous voyez, chaque mot est important. Le mystère, c'est écrit, de la piété est grand. Ce mot signifie, c'est le mot méga dans l'original. Grand dans le sens que ça surpasse toute grandeur que les hommes peuvent supposer. Ils imaginent que le message qu'ils prêchent est supérieur. Et ils pensent cela parce que ils regardent le nombre de gens qui les suivent et ils disent, voilà, nous avons un grand ministère. Nous avons une grande croisade. C'est de leur manière de parler. Et quand ils regardent vers nous, on voit peu de gens qui viennent écouter et disent, mais ça c'est quelle affaire ça? Alors, ils se vantent de leur grandeur, mais nous pouvons leur dire qu'il n'y a rien de plus grand qu'on pouvait imaginer que cet évangile que nous avons à prêcher. Parce que la doctrine de Christ élève Christ au-dessus de tout et exalte Christ au-dessus de tout. Et c'est comme Jean-Baptiste a dit, il faut que Christ lui-même soit élevé et nous soyons minimisés. Et c'est important que ça soit ainsi. Alors, ça c'est la première des choses. C'est cet évangile que nous prêchons, on ne peut pas contredire, ça c'est numéro un. Et numéro deux, c'est un mystère qui est grand. Cela veut dire, on ne peut pas trouver de plus grand message à annoncer. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, lorsqu'il est venu à Corinthe, qu'il cherchait à prêcher autre chose. Il a dit dans 1 Corinthiens 2 et le verset 2, il n'a même pas eu la pensée de savoir parmi eux autre chose. Même la pensée que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Alors, ne soyons pas détournés de notre mission dans la prédication d'imaginer que on peut entreprendre un plus grand sujet que Christ et Christ crucifié. Vous savez comme moi, il y a des prédicateurs qui aiment traiter la Bible comme si c'est une concordance de différents sujets et ils prêchent sur ce sujet cette semaine et la semaine prochaine l'autre sujet. C'est comme ça ils prêchent. Mais ceux-là ne sont pas des serviteurs de Christ, parce que nous savons que cette parole que nous avons dans nos mains n'a qu'un seul sujet. C'est Christ et Christ crucifié. Et c'est ça qui fait que le message que nous avons annoncé surpasse tout autre. Comment est-ce que je vais laisser le plus grand, le méga, si vous voulez, sujet ou doctrine de Christ pour aller prêcher des sujets inférieurs? Non, nous n'avons qu'une seule mission, c'est d'annoncer ce Christ. Alors, ça c'est la deuxième description de l'évangile, sans contradiction, et un sujet qui est grand. Maintenant, on doit voir la troisième description, c'est un mystère. Un mystère. Et c'est là même que on peut dire que c'est un mot que le monde ignore. Combien de gens est-ce que vous rencontrez aujourd'hui quand on parle de l'évangile comme étant un mystère, ils vont vous regarder bizarrement. Ils vont dire, mais c'est révélé maintenant, tout le monde le connaît. Comment est-ce que vous allez dire c'est un mystère? C'est toujours un mystère. Parce que il faut dire les profondeurs de ce sujet. C'est pourquoi c'est grand. Ça dépasse l'homme. L'homme a ses raisonnements. L'homme a sa façon d'aborder les sujets de la Bible. Mais c'est d'une manière naturelle. Et je dis que c'est ce qui remplit les assemblées aujourd'hui. Les assemblées sont remplies d'hommes et de femmes naturels qui sont encore inconvertis, mais qui abordent le sujet de la Bible, même de Christ, d'une manière intellectuelle. Et ils ne sont pas mieux que des aveugles. Je ne sais pas si vous avez des colonies d'aveugles là-bas, mais nous en avons ici, où les aveugles habitent ensemble, ils entraînent ensemble. Il y a des sociétés expressément établies pour eux, et ils vivent ensemble. Mais il faut dire que leur perception du monde n'est pas la même que nous qui voyons. Nous-mêmes, nous voyons la différence, mais c'est comme s'ils touchent certaines choses et entre eux, ils discutent pour décider la meilleure description de cette chose-là. Mais et c'est comme ça que beaucoup prennent la parole. Ils voient les mots, ils lisent, et puis ils s'assoient ensemble dans une soi-disant étude biblique et chacun donne son avis. Tel dit, mais je crois que le verset signifie ceci. Et l'autre dit, non, mais je crois qu'il faut l'aborder de cette manière. C'est comme des aveugles qui sont en train de toucher et imaginer la matière, mais ils ne voient pas clair. Alors, toujours, l'évangile reste un mystère jusqu'à ce que Christ, par son esprit, révèle dans le cœur de ses pécheurs sa personne et son œuvre accomplie pour ceux pour qui il est mort. Alors, c'est un mystère sur plusieurs fronts. D'abord, cet évangile que nous avons à annoncer a été prédestiné, si vous voulez, a été ordonné même avant la fondation du monde. Aucun homme n'était encore existant lorsque Dieu a décrété que le salut serait en son Fils Jésus-Christ. Il a ordonné, on a parlé tout à l'heure des statuts d'hommes. Les hommes aiment leur statut dans leurs organisations, mais Dieu a aussi son statut. Son statut, c'est de sauver de par le monde entier un peuple élu, que lui-même il a élu. Ça, c'est un mystère. Quand les hommes entendent ça, ils sont étonnés. Donc, Dieu a fait distinction. Oui, c'est ce que dit la Bible. Il y en a qui il a ordonné au salut. Mais il faut aussi dire qu'il y a des masses que Dieu a ordonnées pour la condamnation. Et les gens disent, mais comment est-ce que cela est juste? C'est juste parce que c'est Dieu lui-même qui est juste, qui a fait la décision, même avant que l'homme ne soit créé. Alors, c'est à travers le temps qu'il a envoyé son Fils maintenant dans le monde, au moment voulu par lui-même, de venir et donner sa vie afin de justifier, afin de racheter chacun qu'il a donné à son Fils. Ça, ce n'est pas difficile de voir quand on lit la Bible. C'est ce que Christ a dit dans Jean 17. Il ne priait pas pour le monde, dans Jean 17 et verset 9, mais pour ceux que le Père lui a donné. Tout le monde peut lire ces mots-là, mais les aveugles vont essayer de
pervertir cette parole à leur propre ruine. Ils interprètent autrement parce qu'ils ne peuvent pas accepter un tel Dieu. Mais cela ne change pas la vérité. Dieu est Dieu. Ça, c'est sa parole. Alors, c'est un mystère parce que ça a été ordonné même avant que l'homme n'existe. Et c'est un mystère parce que l'homme est né dans ce monde pécheur, aveugle, incapable de croire en un tel Dieu. Quand on parle de libre arbitre de l'homme, l'homme dans sa volonté n'est pas libre. C'est comme quelqu'un tient un objet dans sa main et puis il relâche l'objet. Dès qu'il relâche l'objet, ça tombe. C'est ça la nature de l'homme. Si nous ne sommes pas aussi pécheurs qu'on pouvait être, c'est parce que c'est la main de Dieu qui nous retient. Mais si Dieu relâche sa main, si, comme les gens disent, non, mais Dieu doit laisser le choix à l'homme. Si Dieu laisse le choix à l'homme, l'homme ne fera que aller dans le sens contraire. Il ne viendra jamais à Christ. Christ lui-même a dit ça dans Jean 6 et le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Alors, tout cela, ça fait partie de ce mystère parce que ça dépasse la compréhension de l'homme. Mais néanmoins, c'est la vérité. Alors, c'est pour ça que ça doit être révélé. Question de se convertir à Christ est une question de conversion. À Christ par l'Esprit de Dieu. Si vous regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 4, vous voyez là où Paul explique ce mystère. Il dit dans le verset 3 de 2 Corinthiens 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont... » Et c'est ici que je voudrais porter une petite correction, parce que dans cette traduction, ils ont mis le mot « Dieu » en minuscule, comme s'il s'agissait du diable, qui aveugle l'intelligence. Mais je voudrais que vous sachiez que ce mot Dieu, dans 2 Corinthiens 4 et le verset 4, doit être avec majuscule. Parce que c'est le même mot, Dieu, que vous avez dans le verset 2, quand Paul dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est le même mot Dieu, là, dans le verset 2 que nous avons ici dans le verset 4. Alors voilà comment les gens interprètent la parole contraire au vrai sens. Quand on lit 2 Corinthiens 4, 4, tel quel, nous devons lire ça, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? C'est toujours Dieu souverain, le Dieu souverain, qui aveugle l'intelligence. Dieu lui-même fait le choix entre les hommes. Il y en a à qui il daigne révéler, ouvrir l'esprit du cœur des hommes, et il y a d'autres qu'il laisse dans leur aveuglement. Il aveugle l'intelligence. Ça, ce n'est pas le diable, ça, c'est Dieu lui-même. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dieu est souverain, non seulement dans le salut des pécheurs, mais aussi dans leur condamnation. Et il a voulu ainsi que cet évangile reste un mystère aux hommes jusqu'au moment où Dieu lui-même daigne ouvrir le cœur et l'esprit. Et si vous continuez à lire dans le contexte de 2 Corinthiens 4, 5, vous verrez cela. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. On ne se met pas devant les hommes pour que les hommes nous aiment ou qu'ils nous comprennent. Non. La prédication a un seul but, c'est de prêcher Christ et Christ crucifié. Et il dit, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Notez, le Seigneur. C'est dans le contexte. Quand le mot Seigneur est utilisé, il est maître, il est souverain. Nous n'avons pas dans la Bible un Jésus qui est entre les mains des hommes. Au contraire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui règne et qui tient toute chair entre ses mains afin de donner la vie éternelle, comme il dit dans Jean 17, 3, à tous ceux que le Père lui a donné. Il ne ratera jamais en sa mission. Il n'a pas versé son sang en vain. Si vous voulez savoir si quelqu'un a une véritable connaissance de Christ, posez-leur une seule question. Est-ce qu'il y a des gens à l'enfer aujourd'hui pour qui Christ est mort? S'ils disent oui, il y en a beaucoup pour qui Christ est mort qui sont à l'enfer. Ceux-là sont encore aveugles. Ils n'ont jamais connu le mystère de la piété. Ils sont comme ces gens qui s'assoient dans une petite étude biblique soi-disant, et chacun donne son avis. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils sont encore aveugles. Et ils sont aveugles jusqu'au temps, au moment où Christ lui-même, le Seigneur, daigne ouvrir leurs yeux pour donner cette connaissance de la vérité. Mais ça, c'est le Christ que nous prêchons. Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Nous ne prêchons pas ce Jésus populaire dans le monde. Il y a une distinction. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vous savez, prêcher cet évangile, ce n'est pas de se mettre au-dessus de ceux à qui nous prêchons. Ici, c'est écrit vos serviteurs. Un serviteur lave les pieds des gens. C'est dans l'humiliation que nous prêchons. Je ne cesse de dire ça à l'assemblée ici. Chaque fois que je me lève, ce n'est pas parce que je suis plus important qu'eux. Je ne suis qu'un pécheur en train d'annoncer à d'autres pécheurs le pain de vie. Je suis un pécheur affamé à qui Dieu a daigné dans sa grâce donner ce pain de vie. Et je prends un morceau et je partage cela avec d'autres qui sont affamés. Si quelqu'un n'a pas le désir pour le pain, pas la peine de le forcer à manger. Ceux qui vont manger ce pain-là, ceux qui vont boire, c'est ceux en qui Dieu a mis cet esprit de Christ, de le connaître et de le suivre. Et voilà le verset 6 alors qui donne le tout. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir, quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça, c'est toute une explication de ce mystère. Quand Dieu fait briller la lumière, il fait savoir, il fait connaître quoi? La gloire de Dieu qui est en Jésus-Christ. Même ce mot gloire, ça c'est parallèle avec le mot grand. Dans l'Ancien Testament, les gens voyaient ce nuage de la gloire de Dieu qui résidait au-dessus du tabernacle. Bon, le tabernacle, c'est Christ. La gloire de Dieu réside en lui. Toute sa gloire est en lui. Alors, quoi que les hommes trouvent glorieux, d'autres sujets d'hommes, mais devant Dieu, c'est la folie. Il n'y a qu'une seule gloire. Si nous voulons prêcher pour la gloire de Dieu, c'est prêcher Christ et Christ crucifié, et prêcher Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures. Pas selon la pensée de l'homme. Il y a un autre Jésus qui est prêché aujourd'hui. Il y a un autre évangile. Il y a un autre esprit qui agit. C'est pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ glorifie Christ seul. Quoique ces autres prédicateurs, ils prêchent sous l'influence, ils disent de l'esprit, mais c'est pas l'esprit de Dieu. C'est des esprits séducteurs. Et des doctrines de démons. Quand d'autres veulent contester avec moi, ils disent, oui, mais je sais que l'Esprit était là, oui, il y avait un Esprit, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne fait qu'une seule chose, ça fait taire l'homme, il n'est pas en train de courir et faire du bruit, sa bouche est fermée face à la gloire de Dieu en Christ, et l'Esprit n'a qu'un seul objet, c'est de glorifier Christ. Alors, c'est par là que nous pouvons savoir où est l'Esprit de Dieu. Alors, revenons dans notre texte, dans 1 Timothée 3, et le verset 16, parce que nous avons vu déjà que cet évangile est sans contredit, et cet évangile est grand, et troisièmement, cet évangile est un mystère, cela veut dire que ce n'est pas la disposition de l'homme simplement en lisant qu'il peut appréhender cet évangile. Ça prend la révélation de Christ dans le cœur par l'Esprit qui tourne le cœur vers Christ. Mais quatrièmement, vous voyez, c'est appelé ici le mystère de la piété. Beaucoup aiment utiliser ce mot comme s'il s'agissait d'un comportement. Quand ils disent « voilà un homme pieux », pour eux, cela veut dire que c'est un homme qui a un certain comportement que les gens approuvent. Mais ici, le mot « piété » signifie simplement la crainte de Dieu. Et voilà ce qui manque parmi les hommes. Ils se nomment pieux par leur comportement, parce qu'ils sont en train de faire des efforts, de ne pas faire quelque chose qui est contraire à la parole, selon eux. Ils font leur prière. Ce sont des actes d'hommes que d'autres hommes religieux apprécient, mais ce n'est pas le mot. Ici, quand c'est écrit le mystère de la piété, cela veut dire que cet évangile, lorsque c'est révélé dans le cœur d'un pécheur, produit une crainte de Dieu. Cela veut dire, puisque Dieu maintenant est révélé véritablement dans le cœur, il y a une crainte, ce n'est pas une crainte naturelle, mais spirituelle, de révérer, voilà un autre mot qu'on peut utiliser, plus que respecter, mais révérer le Dieu de la Bible, de telle sorte qu'on craint dire ou agir d'une manière contraire à ce qui est écrit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous joindre à ces lieux de culte où Christ n'est pas prêché en vérité, parce qu'il y a une crainte que Dieu a mis dans nos cœurs de ne pas s'approcher d'une autre manière que ce qui est écrit. C'est la même différence qu'il y avait entre Caïn et Abel. Les gens dans la religion aujourd'hui, même soi-disant christianisme, évangélique, ce sont des termes qu'ils aiment utiliser, mais quand on voit dans ces milieux-là, il n'y a pas de crainte de Dieu. Chacun est en train de bavarder, d'expliquer, de parler d'une manière qui lui plaît. Et tu es là avec la Bible ouverte, et même si tu leur dis, mais non, ce que tu prêches, ce que vous croyez est contraire à ce qui est écrit, on va vous trouver maintenant comme un ennemi. Voilà, il n'y a pas de crainte de Dieu en eux. Alors, cette crainte de Dieu, cela veut dire, je crains présentement Dieu de telle sorte que je ne pouvais jamais aller prêcher un évangile contraire à ce qui est écrit. Jamais prêcher d'une manière à minimiser la gloire de son Fils. Même si les gens se fâchent, même si je dois vivre une vie isolée à cause de cela, je préfère cela par la crainte de Dieu. C'est ça le mot piété. Cela ne veut pas dire que quand les gens me voient, je suis toujours dans la prière, ou juste comme eux, ils sont toujours en train de jeûner, ils ont une manière, un comportement que devant les hommes apprécient, ils disent, ouais, voilà un homme vraiment pieux. Non. Quand les gens raisonnent comme ça, c'est que les yeux sont sur des hommes. Ça, ce n'est pas la piété. La piété vient du cœur. Et ça vient d'un cœur transformé par l'Esprit de Dieu qui dirige toujours ce cœur envers Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est le fruit, c'est le résultat de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur, cette crainte de Dieu. Alors, on peut dire que ça, c'est la quatrième qualité de cet évangile. C'est le mystère de la piété. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire dans nos auditeurs. C'est pourquoi nous ne nous servons pas de ces méthodes que les hommes utilisent pour essayer de convaincre les gens à prendre une décision quelconque. Non. Si l'Esprit de Dieu agit dans le cœur d'un de ses élus, on le saura parce que celui-là aura la crainte de Dieu dans son cœur. Il craindra continuer sur son ancienne voie. Il craindra s'approcher de Dieu de par ses œuvres. Il craindra venir devant Dieu dans l'adoration d'une autre manière que par Christ seul, comme le souverain sacrificateur, comme celui qui a versé son sang pour lui. celui qui avait la vraie crainte de Dieu, on peut dire, se trouve dans Luc, chapitre 18, si vous voulez regarder là. Il y avait le publicain qui est venu au temple pour prier, mais aussi il y avait le pharisien. Voilà la différence. Qui est celui qui avait la crainte de Dieu? C'est écrit dans Luc 18 et le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, notez, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Voilà la plupart de ceux qui se rassemblent aujourd'hui dans le nom de Dieu. Ils se persuadent. Des personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes déjà. Il n'y a aucune crainte de Dieu parce qu'ils sont fiers de leurs œuvres. Alors, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Et voilà, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu parce qu'il s'adresse directement à Dieu sans intermédiaire. Vous savez qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans médiateur. Telle est la crainte que nous avons, que Dieu nous a donnée, que si Christ n'est pas là comme notre avocat, nous ne devons même pas nous adresser à Dieu. Mais celui-là, le pharisien, debout, priait ainsi à lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Voilà comme les hommes raisonnent. Ils imaginent qu'ils sont mieux que les autres. « Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Alors, vous voyez déjà dans le verset 11, la description de quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Le mystère de la piété n'a pas encore été révélé en lui. Mais par contraste, le publicain, verset 13, se tenant, notez, à distance. Quand on se tient à distance, c'est qu'il y a une certaine crainte. Cela veut dire révérence. On ne s'approche pas de ce Dieu comme on veut. Et c'est écrit, n'osez pas même lever les yeux au ciel. Ouais, ça c'est la crainte de Dieu, qui reconnaît que si je m'adresse directement à Dieu, il doit me condamner. Et c'est écrit, il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, notez la différence entre la manière qu'il a dit, ô Dieu, et le pharisien debout, disant, ô Dieu. On entend ça dans les assemblées, les gens crient vers Dieu comme s'ils sont importants. Mais ici, c'est dans l'humilité, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Combien de gens qui se rassemblent aujourd'hui ont cette attitude? Très peu. Il dit, j'étais un pécheur. C'est comme ça qu'il raisonne. Ah oui, je vivais une vie de péché auparavant, mais maintenant, je suis zélé, j'ai la victoire sur le péché. C'est comme ça. Ils sont en train de raisonner comme le pharisien, qui se persuade qu'ils sont justes en eux-mêmes, à leurs yeux. Et je voudrais aussi remarquer, quand le publicain dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi, ce mot apaisé, dans l'original, c'est le mot miséricordieux. Sois miséricordieux envers moi. Et il faut noter que cela, c'est avant la croix. Où était le lieu de miséricorde avant la croix? C'était dans le temple. C'était là où se trouvait l'arche. Et c'était couvert avec une couverture sur laquelle le sang versé a été aspergé une fois par an. Le lieu de miséricorde. Ouais, ça, cet homme, ce publicain, par l'Esprit de Dieu, est en train de crier vers Dieu pour dire, ne pas regarder à lui, mais regarder à ce lieu de miséricorde, où Dieu lui-même ose faire miséricorde, montrer sa miséricorde envers les pécheurs. Il faut dire que cette arche où était versé le sang était symbolique de la personne de Christ et de son œuvre qu'il est venu accomplir. Donc ce publicain, sous la révélation de l'Esprit, en train de s'approcher dans la crainte de Dieu, demandant pas exigeant, mais demandant à Dieu de lui faire miséricorde à cause de Christ. C'est ça le message. Et Christ a dit cela, verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Plutôt que l'autre. Un devait être justifié par le sang de Christ, l'autre ne serait jamais justifié. Quel que soit son zèle, il était zélé pour lui-même, pour ses œuvres, mais sans crainte de Dieu. En contraste, ce publicain qui n'osait même pas regarder vers les cieux et qui se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il dit, « Car quiconque s'élève, cela veut dire qu'il n'y a pas de crainte de Dieu en lui, il court, il s'approche de Dieu pensant que Dieu doit le sauver. » C'est comme ça, le salut est prêché. C'est comme si c'est un droit de l'homme. Non, Dieu sauve qui il veut. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse, dans le sens d'avoir cette crainte de Dieu, sera élevé. Alors ça, c'est la cinquième qualité de cet évangile. Ça donne aux hommes la crainte de Dieu. Le mystère de la piété est grand. Ouais. Et puis sixièmement, c'est écrit « Celui qui a été manifesté en chair ». Donc, l'évangile que nous prêchons annonce un Dieu qui est venu en chair. Dans l'original, en fait, au lieu de « celui », vous allez voir que c'est écrit « Dieu qui a été manifesté en chair ». Voilà qui est Jésus, Dieu dans la chair. C'était nécessaire qu'il prenne la chair parce que Dieu ne peut pas mourir. Pourtant, pour sauver les pécheurs, ça a exigé la mort. Alors, il est venu en chair afin de donner sa vie en tant qu'homme pour satisfaire toutes les exigences de la justice de Dieu le Père. Alors, ça fait partie de ce mystère, mais ça, c'est une qualité de l'évangile. Dieu dans la chair. Et puis, septièmement, justifié par l'Esprit. Justifier quelqu'un veut dire déclarer juste tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Justifié par Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu a fait entendre sa voix lorsque Christ était encore parmi les hommes. Il a dit, « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ça, c'est le sens de justifié par l'Esprit. Non seulement justifié dans sa vie, mais à travers sa mort. Comment est-ce qu'il était justifié à travers sa mort? C'est qu'il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Ça, c'était une justification de la personne de Christ et de son œuvre. Quoique les hommes ne croyaient pas en lui, Dieu néanmoins a prouvé la véracité de tout ce que Christ est venu faire en le ressuscitant de la mort. Si Dieu l'a ressuscité de la mort, c'est comme si l'Esprit, maintenant, l'Esprit justifie le Fils, Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, le justifie devant les hommes, prouve qu'il est véritablement qui il est. Et c'est écrit « vu des anges ». Cela veut dire quand Christ est monté encore au ciel, les anges sont venus témoigner que ce même Jésus qu'ils ont vu partir reviendra un jour. À travers le ministère de Christ, les anges sont venus témoigner dès sa naissance, ouais, aux bergers. Ils ont annoncé qu'aujourd'hui est né dans la cité de David le Sauveur. Ouais, les anges ont annoncé sa mort, les anges ont annoncé sa résurrection. Quand les disciples sont venus à la tombe pour voir la tombe vide, il y avait des anges qui leur ont dit, il n'est pas ici, il est vivant. Témoigner des anges. Quand il est ascendu au ciel, les anges ont apparu pour dire de retourner à Jérusalem comme il a dit. Car il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Donc, tout ça, ça fait partie de la véracité de ce message de l'évangile que nous prêchons. Toute vérité doit être établie en présence de deux ou trois témoins. Et c'est ce que nous voyons à travers la Bible. Nous avons le témoignage de l'Esprit lui-même qui suffit. Mais nous avons aussi le témoignage de ces hommes en qui Dieu a mis son Esprit et qui ont écrit cette parole. Nous avons le témoignage de cette parole. Nous avons le témoignage des anges. Alors, nous voyons que cet évangile annonce non seulement Christ dans la chair, justifié par l'esprit, je crois que c'est neuf maintenant, vu des anges, mais prêché aux gentils. Prêché, le mot gentil veut dire, c'est le mot ethnique. Des gens de tout genre, partout le monde. C'est un message pour des pécheurs de toute langue, de toute tribu, parce que Dieu, dans sa grâce, a ordonné le salut de tels pécheurs. Vous voyez? Et puis, dixièmement, cru dans le monde, il y en a qui ne vont pas croire, ils vont rester dans l'incrédulité, mais il y en a qui vont croire. Et pourquoi ils croiront? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que les autres? Non. Encore, par la révélation de Christ. Nous savons que Christ va attirer à lui-même par son esprit chacun pour qui il est mort. Nous ne savons pas qui ils sont, mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alors c'est pourquoi je n'ai pas à me soucier quand je prêche de savoir qui va croire, qui ne va pas croire. Ceux seuls croiront que Dieu lui-même a élu, pour qui Christ est mort et que l'esprit maintenant attire en son temps. Et ça c'est important, c'est toujours dans son temps. Nous pouvons peut-être être en train de prêcher cet évangile maintenant à des gens qui sont endurcis contre le message. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement réprouvés. Même Saul, de Tarse, aucun ne priait pour lui. Quand il persécutait l'Église, aucun n'imaginait que c'était un élu de Dieu. Mais, au moment voulu par Dieu lui-même, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en lui, il était converti. Et voilà, maintenant, c'était manifesté que tout le long, même de sa naissance, il était toujours un élu de Dieu, mais ça n'a pas été encore révélé. Mais il était parmi ceux qui ont cru dans le monde. Et si nous croyons aujourd'hui, nous sommes parmi ce nombre. C'est un privilège, c'est une grâce de croire. Ce n'est pas un droit. Alors tout ça, ça fait partie de l'évangile. Et puis, le dernier point, élevé dans la gloire. Vous voyez, l'évangile commence en visant la gloire de Dieu, ça termine à la gloire de Dieu. Élevé dans la gloire. Cela veut dire que c'est un message qui ne cesse de glorifier Christ. Et si quelqu'un ne prêche pas de cette manière de glorifier Christ, du début jusqu'à la fin, le message, c'est un mensonge. Ce n'est pas un message, c'est un mensonge. Alors, vraiment, c'est ça le véritable évangile. Le temps est déjà passé, je voudrais maintenant laisser chacun emmener quelques points, essayons de donner la somme peut-être d'un point en particulier que le Seigneur a mis sur votre cœur. Là, chacun peut partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Et nous allons reprendre ça, Dieu voulant, la semaine prochaine, le chapitre 4.
Ah oui, c'est ça. Je remercie le Seigneur que vous avez tout dit pratiquement, surtout avec ce point de sans contredit là, et le contraste entre l'évangile de Christ et l'évangile de l'homme. Et c'est justement ce qui différencie ceux qui prêchent l'évangile véritablement de ceux qui prêchent quelque chose qui touche un point de l'évangile et avec la sensibilité des hommes. Ce que l'apôtre appelle ici les esprits séducteurs. Voyez? Donc en réalité, les hommes pensent que quand ils prennent un point de la vérité et ils touchent habilement la pensée des hommes qui sont sensibles, ils touchent la sensibilité de certains hommes, ils sont en train de prêcher la vérité. Et finalement, leur vérité finit par contredire le mystère de la foi. Et nous voyons réellement que quand ce mystère s'accomplit dans un homme, par exemple, quand nous lisions 2 Corinthiens 4, là, nous ne pouvons pas diriger Dieu pour que sa gloire soit révélée sur la face de Christ dans le cœur des hommes. Mais cela se passe sans nous. C'est vraiment un mystère. Comment est-ce que Dieu se manifeste avec toute sa gloire sur la face de Christ dans le cœur de quelqu'un? nous, si réellement nous sommes dans le et dans ce mystère, nous ne pouvons que plus que nous prêcher nous-mêmes ou dicter des sensibilités religieuses aux hommes de croire, nous ne pouvons que nous dire serviteurs des autres à cause de Jésus-Christ. Et tout comme Dieu a fait briller la lumière dans le sein des ténèbres, vous voyez, pour contraster en réalité sa lumière, sa vérité avec les ténèbres, pour un seul objectif, faire briller sa gloire sur la face de Christ et dans notre cœur. C'est là où réside notre espérance. Donc le véritable prédicateur, lui, il n'enseigne pas un dogme, il ne laisse pas un enseignement d'un coin de la vérité, mais il prêche Jésus-Christ, la doctrine, la vérité, la lumière, vous voyez, la gloire venue en chair. Et en le proclamant, il espère que Dieu lui-même va révéler cette gloire. Ça doit être notre attente, autrement nous allons souvent nous faire des adeptes, des disciples d'une idée. Et finalement, nous allons voir des gens qui se familiarisent avec un coin de la doctrine ou bien un coin de la vérité et qui se disent enfants de Dieu. Il suffit qu'ils aient la parole seulement et finalement, ils ne prêcheront plus Christ. Donc, je remercie vraiment le Seigneur que et ce contrat est clairement défini. Et vous voyez, là où c'est commencé, c'est là où ça termine. C'est-à-dire, Christ révélé dans la chair, proclamé, élevé dans la gloire. Et si nous le prêchons tel qu'il est, nous verrons ceux qui voient cette révélation dans leur cœur, vraiment dans la véritable crainte du Seigneur. Et ils s'attacheront à Christ, s'attendant seulement de cette grande et miséricorde, de cette gloire qui se manifeste à l'intérieur d'eux. Ils ne peuvent plus mettre sur place quelque chose qui va contredire cette révélation. J'ai l'habitude de dire par rapport au contexte de cet enseignement de 1 Timothée 3 et 4 qu'on ne dit jamais qu'un père ressemble à son fils, mais on dit seulement qu'un fils ressemble à son père. Donc tout fils doit chercher à se voir dans le père pour définir son identité. Mais le père ne peut pas chercher à se voir dans le fils pour définir son identité. Donc si l'évangile est fidèlement prêché, les hommes doivent se voir par la foi avec le mystère de la révélation de Jésus-Christ dans le père pour dire que je suis dans le père et le père est en moi et vivre par la foi. Mais quand des gens, des faux docteurs commencent par identifier certaines choses dans l'homme et même prennent des qualités spirituelles comme référence pour s'identifier à Dieu. Là, ils sont en train de dire, ah, tu vois, moi, j'ai une seule femme, moi, je suis discipliné, je suis honnête, donc je dois être prédicateur. Et ils pensent que Dieu se voit dans leur vie terrestre pour les reconnaître comme enfants. Mais la véritable foi fondée sur Christ, que la prédication de l'évangile révèle par l'esprit au cœur des véritables enfants de Dieu, ne se mesure pas par rapport à eux pour se définir enfant de Dieu comme statut, mais se mesure par rapport à Dieu et dit « Je suis tel que Dieu est et Dieu est tel que je suis » et cela demeure sans contredit. On ne peut pas prendre quelque chose de la chair pour dire que quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, mais on peut prendre tout de Dieu pour dire que quelqu'un est enfant de Dieu. C'est ça que Paul dit. Si les gens ne nous reconnaissent pas comme enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Et si des gens veulent définir des enfants de Dieu sur la base d'autre chose que Dieu lui-même dans son entièreté, c'est parce qu'ils ne le voient pas, ne le connaissent pas et ne le prêchent pas comme le mystère, comme véritable gloire et qui se manifeste d'une façon caché, mais clair pour ceux à qui cela est révélé.
C'est ça.
Parce qu'un ministère révélé n'est plus caché à celui à qui cela est révélé. Mais c'est celui qui n'a pas cette révélation, ça demeure un mystère pour lui. Et je ne sais pas si cela vous arrive dans votre ministère. Chaque fois que je prêche l'évangile, et les gens, si on dit que c'est un mystère, ils réagissent. Mais quand on leur prêche, ils commencent par dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je lis toujours ce verset-là. Voilà. Mais je n'ai pas compris comme ça. Dis, mais tu lisais dans le noir.
C'est ça.
Et c'est un mystère révélé. Ouais, donc eux-mêmes, ils réagissent et ils constatent que ça, c'est un mystère. Ils constatent que c'est clair.
Amen.
Et ils se demandent comment est-ce que je n'ai pas vu. Parce qu'ils sont en train de chercher cela avec leur intelligence.
C'est
et ils tordent le sens des Écritures
c'est
pour
ça.
Faire des adeptes et faire d'eux des enfants de Dieu sur la base de leur tradition. Mais Dieu, lui, révèle Christ, comme Ken vient de dire, et même celui-là qui se disait croyant, à un moment donné, commence à voir une gloire qui la dépasse dans son cœur, et seulement sur la face de Christ. Et se voit dans une unité parfaite entre Christ, Dieu et lui. Et c'est ce résultat-là que nous nous attendons. Et je nous exhorte tous à demeurer fermes réellement dans la prédication de la foi pour que Dieu fasse le reste et dans le cœur. Là, le mystère sera révélé à ceux à qui cela est destiné. Amen. C'est notre attirance.
Bien dit.
Que Dieu nous
bénisse. Amen. Bien dit. Merci. Quelqu'un d'autre?
Voilà, je veux vraiment vous dire une petite histoire. Quand j'étais par exemple au Mali, alors j'étais avec une église charismatique, alors qui faisait beaucoup, qui priait pour beaucoup de malades. Alors quand j'étais avec le groupe pour prêcher l'évangile de la grâce, je leur disais que moi je vais partir à la prison de Bougni, pour aller prêcher, c'est la ville natale. Et quand je partais à la prison, je réunissais les prisonniers et je commençais par dire, moi-même, je suis un prisonnier.
Ouais.
Vous êtes là, mais vous valez plus que moi. Moi, j'ai fait des actes, je devais être même au plus profond de cette prison. Mais si je suis avec vous aujourd'hui, je ne suis pas en prison. Et ça, c'est grâce à Dieu. C'était un exemple pour leur montrer comment la grâce de Dieu est. Effectivement, quand je vois, moi, j'ai fait de pire plus que ces gens. Et j'avais ça dans le cœur. Et souvent, j'étais tellement apprécié par les prisonniers à cause de la vérité de la grâce. C'est pour dire que celui qui a compris le mystère de la grâce, alors il est considéré comme une autre personne. C'est pour cela que je soutiens un peu celui-là qui a dit que la foi n'est pas éloignée de la folie. Parce que quelqu'un qui croit au mystère de la grâce de Dieu, alors on le juge autrement sur la terre. Et il est considéré comme un ennemi à tous. C'est pour dire que l'humilité se trouve vraiment dans la grâce de Dieu. Alors nous sommes d'abord les premiers à montrer notre bassesse, notre infirmité, alors que les autres sachent la grâce de Dieu. Je veux être vraiment très bref, que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Amen.
On ne cesse jamais d'être pécheur et de nous approcher de Dieu en tant que tel, dans le besoin toujours de sa grâce, mais sachant toujours aussi que cette grâce nous est accordée en son Fils Jésus-Christ seul. Et c'est pourquoi nous ne cessons de prêcher Christ, parce que nous-mêmes qui prêchons, nous sommes dans le plus grand besoin. Je dis ça souvent à ceux qui réunissent, qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui est dans un plus grand besoin que moi d'entendre ce message que je dois vous prêcher, parce que je suis ce pécheur-là et j'ai soif de cette eau de vie, j'ai besoin de ce pain de vie et je ne suis qu'un simplement un pécheur qui partage avec d'autres pécheurs le remède. C'est Christ. Que le Seigneur nous dirige toujours dans cet esprit-là. Frère Aurélien, si tu peux nous diriger dans la prière, je dois couper court pour aller vers ceux de Malawi, mais si tu peux demander au Seigneur vraiment de bénir à nos cœurs ce que nous avons entendu aujourd'hui.
D'accord. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce privilège, ce grand privilège que tu nous as donné vraiment de partager cette chose ce matin. Nous confions en toi et nous avons la conviction que cette conférence que nous menons n'est pas un jeu de hasard. C'est dirigé par toi-même pour toucher les cœurs et faire briller ta gloire sur la face de Christ dans le cœur de tes élus. C'est pour cela que nous nous recommandons à toi et te recommandons tous ces auditeurs et chacun de nous qui sommes ici en train d'étudier et de presser ces choses pour que Seigneur, tu tournes ces opportunités en véritable bénédiction. Car la bénédiction, c'est toi-même. Et nous voulons nous voir en toi. Nous voulons que tu te manifestes à ceux qui t'appartiennent afin qu'ils puissent réellement à ta puissance faire briller ta voix. Nous te confions tes frères de Malawi qui vont suivre et les prédicateurs, les frères qui nous dirigent cette étude, dans cette formation. Seigneur, donne-nous de vivre réellement ta crainte dans le cœur et faire régner réellement cette crainte dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Ah, c'est en cela que réside le véritable salut. donne-nous cette liberté de nous jouir de toute ta grâce et de voir toute la splendeur de ta gloire de la part de Christ. C'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que nous prions. Amen.
Amen.